8h-19h,
Sébastien Guyot sur Europe 1.
Bienvenue dans votre grand journal du soir. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On va essayer ce soir de décrypter notre société de façon sérieuse, de façon légère, de façon gourmande. Le sérieux, ce sera à 18h15 avec un débat sur la grande réforme du quinquennat Macron, la PMA pour toutes, une députée homosexuelle, La République En Marche, face un député Modem pour nous parler de cette grande réforme. Le léger, ce sera le retour de Striptease à la télé ce soir. Émission culte, bien sûr. Sauf que la version 2019 fait polémique. RMC Story ou RTBF, faut-il choisir son camp ? Rendez-vous à 18h40 pour vous faire votre avis. Et puis le gourmand, c'est bien sûr vos régions sur un plateau, menu galette saucisse en Bretagne ce soir. Ce sera bien sûr avec Marion Sauveur peu avant 19h.
Et réagissez à l'émission de Sébastien Guyot sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur europe1.fr. Vous écoutez Europe 1, il est 18h. Le grand journal du soir, Sébastien Guyot.
Et à la une ce soir, un Colombien de 22 ans, Egan Bernal, qui va remporter le Tour de France demain sur les Champs-Élysées, sauf accident. Julian Alaphilippe perd sa place sur le podium. La main tendue de Bruno Le Maire à Donald Trump après les menaces du président américain. Le ministre de l'économie souhaite un accord sur la taxe dite GAFA avant la fin de l'été. Et puis une tentative d'incendie contre une permanence d'un député LREM à Perpignan. Des gilets jaunes sont mis en cause.
Europe 1.
Le Tour de France sur le point de s'achever. Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Nous avons rêvé pendant 3 semaines avec vous à une victoire tricolore. Finalement, il n'y aura aucun Français sur le podium et c'est donc un Colombien qui devrait être sacré demain sur les Champs-Élysées en principe.
Oui, on peut même enlever le conditionnel parce que sauf accident improbable, il va, Egan Bernal, demain devenir le premier Colombien de l'histoire de son pays et de l'histoire du Tour de France tout court à monter sur la plus haute marche du podium. Vous le disiez dans les titres, 22 ans seulement. Hein. 22 ans, c'est à peu près l'âge qu'avaient Fignon, Merckx, Anquetil, rien que ça lorsqu'ils ont remporté leur premier Tour de France. Egan Bernal qui remporte donc cette grande boucle devant son coéquipier, le Gallois, le vainqueur sortant, Geraint Thomas, et devant Steven Kruiswijk, le néerlandais. Julian Alaphilippe, qui était deuxième du général ce matin, a perdu du temps dans cette interminable montée vers Val Thorens et il termine cinquième. Il est quand même satisfait de son Tour de France. 14 jours en jaune, il n'imaginait pas être aussi longtemps à la fête. Et puis, il y aura quand même, pour être précis, un Français sur le podium protocolaire sur les Champs-Élysées, c'est Romain Bardet, parce qu'il a réussi pour quelques petits points à conserver son maillot à poids de meilleur grimpeur devant Egan Bernal. Et pour finir sur Bernal, sachez qu'il va aussi demain revêtir le maillot blanc du meilleur jeune.
Oui, merci Axel May. On vous retrouve à 19h10 pour le Club Tour avec les consultants d'Europe 1, Thomas Voeckler et Patrick Chassé.
Europe 1.
L'actualité ce soir, c'est également cette passe d'armes à distance entre Donald Trump et Emmanuel Macron. C'est Bruno Le Maire qui est monté au front cet après-midi pour répondre aux menaces du président américain. Petit rappel des faits, acte 1, hier soir, un tweet plus ou moins agressif de Donald Trump. La taxation des géants du numérique est une décision stupide, écrit-il. En représailles, le président américain menace de taxer le vin français. Acte 2, cet après-midi, devant Bercy, Bruno Le Maire convoque les journalistes et le ministre de l'économie se montre finalement plutôt mesuré.
Je souhaite vivement qu'on ne mélange pas les deux sujets. Il y a d'un côté la question des tarifs douaniers qui existent sur le vin français à destination des États-Unis, et puis il y a une taxation des vins américains à destination de l'Europe. Ce que je constate, c'est que ces tarifs douaniers n'ont pas empêché depuis 20 ans une très forte augmentation de la consommation de vins américains en Europe et en France, puisque le volume a augmenté de plus de 30% au cours des 10 dernières années. Je connais l'inquiétude des viticulteurs français. J'ai eu ce matin au téléphone Jérôme Despé, le représentant de la filière viticole française, et je lui ai garanti que nous allions travailler à la demande du président de la République sur une solution internationale pour la taxation du digital. Et cette solution, nous devons pouvoir la trouver pour le G7 de Biarritz. Et je l'espère, parvenir à un accord global sur une taxation universelle du digital. Mais ne mélangeons pas les deux sujets, ces deux sujets n'ont rien à voir.
Bonsoir Jean-Jacques Herry.
Bonsoir.
C'est vous qui avez recueilli les propos de Bruno Le Maire. Et si le ministre de l'économie se montre si mesuré avec Donald Trump, c'est peut-être parce que les échanges commerciaux de vin avec les États-Unis sont plus que symboliques.
Oui, les États-Unis en valeur, c'est tout simplement le premier marché d'exportation pour le vin français. Ça représente près du quart des exportations de vin, à hauteur de 3,2 milliards d'euros. Un chiffre en plus en croissance de 4,6% en 2018. Donald Trump sait donc que ses menaces économiquement, eh bien, elles pèsent et elles pèsent beaucoup. Alors concrètement, si vous rentrez aujourd'hui dans un magasin américain, vous allez trouver en bonne place les bouteilles de Bordeaux. Aux côtés des vins américains ou d'Amérique latine, il y a des clients, des amateurs de vins français. Le profil type, ce sont plutôt des acheteurs qui appartiennent à la classe moyenne américaine avec un fort pouvoir d'achat. Et ces bouteilles dont Donald Trump dit qu'elles rentrent pour rien sur le sol américain, alors comment sont-elles taxées? Eh bien, en fonction de deux critères. Un, la teneur en alcool et deux, la taille du récipient. Soyons clairs, on parle de taxes douanières qui sont peu élevées. Hein. Si l'on compare avec les droits de douane à l'entrée de l'Union européenne, eh bien, Donald Trump a raison. On taxe quand même moins qu'aux USA. Une bouteille française vers la... On taxe quand même moins aux USA, pardon. Une bouteille française vers l'Amérique, c'est 5 cents de droits de douane. Une bouteille américaine équivalente vers l'Union européenne, c'est 10 centimes d'euros. Bref, pour résumer, ces droits de douane, ils ont pour le moment un impact plutôt faible sur le prix final d'une bouteille française pour le consommateur américain qui paye surtout les marges des distributeurs. Mais ça pourrait bien changer donc si les velléités de taxation du président américain finissent par se traduire de manière concrète.
Merci Jean-Jacques Herry. Emmanuel Macron, lui, n'a pas réagi directement aux menaces de Donald Trump. Le chef de l'État était en Tunisie aujourd'hui pour assister aux obsèques nationales du président Ebsessi. Il a salué son courage pour défendre une Tunisie éclairée, ouverte, tolérante dans des temps difficiles où l'obscurantisme menaçait. Dans un instant, la suite du journal et cette permanence d'un député La République En Marche attaqué par des gilets jaunes à Perpignan. A tout de suite.
Il est 18h06, la suite du Grand Journal avec vous Sébastien Guyot.
La grosse frayeur et la grande colère d'un député LREM dont la permanence a été attaquée ce matin à Perpignan. Il était à l'intérieur au moment où un groupe d'une trentaine de gilets jaunes a tenté de casser des vitres et de mettre le feu.
J'étais à ma permanence comme chaque samedi matin pour travailler et à midi, j'ai entendu un vacarme venant de la rue. Les gilets jaunes ont envahi, j'étais 200 à peu près la rue où j'ai ma permanence. À coup de marteau, ils ont brisé les vitres de ma permanence. Ensuite, un d'entre eux a mis un produit inflammable dans la permanence et a mis une allumette. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un début d'incendie. Un voisin en face a envoyé un extincteur et donc un riverain qui passait a passé un coup. Ma permanence occupe un rez-de-chaussée et au-dessus de ma permanence, il y a deux appartements occupés par des familles, par des personnes qui vivent là. Et d'ailleurs, ils étaient là. Il y avait plein d'habitants qui étaient là dans la rue. Et donc, l'incendie aurait pu se propager. La permanence, il suffisait de tourner la poignée de la porte pour voir que j'étais à l'intérieur et pour rentrer et discuter avec moi si cela avait été leur intention.
Le député LREM de Perpignan, Romain Gros, joint par Claudia Bertram. Nouvelle agression homophobe en France. Un couple homosexuel a été violemment pris à partie la nuit dernière à Villeurbanne par une vingtaine d'individus armés de barres de fer et de casques de moto. Le couple souffre de blessures légères. Nous y reviendrons dans le journal de 19h. Le Brexit est une énorme opportunité économique. Déclaration aujourd'hui à Manchester du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson qui promet une sortie le 31 octobre, même sans accord. Plus de 500 manifestants ce matin arrêtés en Russie lors d'un rassemblement de l'opposition à Moscou. Rassemblement non autorisé pour réclamer des élections locales libres en septembre, alors que de nombreuses candidatures ont été rejetées. Les pompiers en alerte dans plusieurs départements français. Des épisodes orageux sonnent certes la fin de l'épisode caniculaire, mais la vigilance reste de mise. Les secours tiennent à rappeler les consignes de sécurité, Stéphane Frangy.
Oui, puisque dans cette période d'afflux touristique, vous êtes nombreux sur les routes ou bien en promenade ou encore sous une tente, dans un moment où on ne s'attend pas forcément à voir arriver un épisode orageux. Bref, tout du contexte piège pour le capitaine Stéphane Guillot des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.
C'est assez piégeux. Jusqu'à présent, la météo était quand même au beau fixe puisqu'il y avait très peu de vent et avec des fortes chaleurs, donc les gens sont dehors. Je pense que la plupart des gens ont quand même maintenu leurs activités à l'extérieur. On est un petit peu moins vigilant dans ces périodes estivales. Quand on est est à l'extérieur, c'est éviter la proximité des objets métalliques et ne pas rester sous les arbres. Et pour les campeurs, effectivement, éviter de rester dans les tentes. Éviter d'utiliser nos appareils électriques, notamment les téléphones portables. Alors que lorsqu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, c'est plutôt l'inverse. Il faut éviter d'utiliser une ligne fixe et utiliser son téléphone portable. Débrancher les appareils électriques, en règle générale, qui sont générateurs de risques d'incendie.
Et une grosse vigilance plus généralement pour les services incendie, car les impacts de foudre provoquent des départs de feu. On vient de le voir ici même cet après-midi avec quelques rotations aériennes, notamment pour intervenir rapidement sur un massif aux portes de la ville.
Stéphane Frangy, l'un de nos correspondants à Marseille.
Europe 1, 18h09.
La météo, Laurent Cabrol, qu'est-ce qui nous attend demain ?
Eh bien, il y a encore nos vigilances orange, puisque les orages sévissent et séviront encore pendant la nuit. Mais la zone orageuse est en train de rétrécir de manière assez considérable, de sorte que demain, nous n'aurons plus que quelques régions marquées par les orages. L'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes frontalières essentiellement, dans le courant de l'après-midi. Alors le matin, c'est vrai qu'il y aura encore peut-être quelques orages sur le nord, sur la Bourgogne, etc. Mais tous ces orages-là vont progressivement s'échapper de la France vers la Suisse et vers l'Allemagne, de sorte que dans le courant de l'après-midi, on peut dire que ce dimanche sera presque agréable avec des éclaircies souvent présentes. Les températures seront à la hausse, 19 à Belfort, 21 à La Rochelle, 22 à Clermont-Ferrand, 23 à Lille, 24 à Caen, 25 à Rennes, 26 à Paris, 27 à Marseille et 30 degrés à Nice.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure 18h30 pour la météo des plages.
Le journal des sports.
C'est avec Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous.
Le Tour de France, c'est le Colombien Egan Bernal qui sera donc en jaune sur les Champs-Élysées.
Voilà, Julien Alaphilippe en souffrance et décroché en effet dans la montée vers Val Thorens. Après 14 jours en jaune, le Français n'a pas réussi à sauver sa place sur le podium. Le voilà désormais cinquième au général. Après cette dernière étape de montagne remportée par Vincenzo Nibali, son sixième succès dans la grande boucle. Et dans cette dernière montée, eh bien, un autre Français a souffert, c'est Romain Bardet qui finit à près de 4 minutes du vainqueur. Mais l'Auvergnat, il s'est accroché, il a réussi à conserver son maillot à poids de meilleur grimpeur. Forcément, une immense satisfaction après un Tour de France compliqué pour lui.
Je suis vraiment content d'y être pour ce maillot, c'est le maillot, je dirais, de l'espoir et de le fait de, malgré les circonstances, avoir courbé les chines et ne jamais renoncer. On part avec des ambitions et quand celle-ci s'effondre, il faut savoir vite rebondir. Je pense que c'était une belle école de la vie et je suis fier de ne pas avoir baissé les bras.
Romain Bardet avec Axel May, l'un de nos envoyés spéciaux sur le Tour. Chapeau français à Alaphilippe, à Pinot qui a rendu les armes hier. Merci pour ces 3 semaines de folie. Bernal, 22 ans, sera donc le premier Colombien à remporter le Tour de France. Sauf catastrophe lors de la dernière étape qui se déroulera demain entre Rambouillet et les Champs-Élysées.
Avec une arrivée en soirée vers 21h30. Les mondiaux de natation en Corée du Sud et une deuxième médaille pour les Bleus.
L'équipe du 4x100 mixte a terminé 3e derrière l'Australie et les États-Unis vainqueurs. Les Américains qui signent au passage un nouveau record du monde. Clément Mignon, Mehdi Metella, Charlotte Bonnet, Marie Wattel offrent la deuxième médaille aux Bleus après le bronze de David Aubry sur 800 mètres mercredi. Charlotte Bonnet très émue après cette médaille collective au micro européen de notre envoyé spécial en Corée du Sud, Bruno Cluaz.
De finir sur ça, sur cette médaille, sur ce relais extraordinaire, franchement, je suis trop contente de ce qu'on a fait, je suis vraiment trop fière. Voilà, c'était une année compliquée, avec des hauts, des bas, un peu plus de bas malheureusement, et de finir sur cette médaille de bronze, ça fait 6 ans que j'avais pas eu une médaille au championnat du monde, et la dernière c'était aussi sur un relais, donc je suis trop contente.
Les championnats de France d'athlétisme à présent qui se déroulent ce week-end à Saint-Etienne, et déjà Cyril, une très belle performance pour les Bleus.
Oui, pour Kevin Mayer qui a battu aujourd'hui son propre record personnel sur 110 mètres au haies en 13 secondes 60 lors des séries. Le champion du monde ne dispute pas le décathlon ce week-end, en revanche il s'est aligné à la perche mais aussi au disque. C'est une bonne idée, souligne notre consultant Jean-Claude Perrin.
Il avait décidé, pour se préparer au décathlon, dont il est le champion du monde pour Doha, qui auront lieu dans 2 mois maintenant, de faire 2 ou 3 épreuves cet après-midi, notamment les haies. Et là, il a été véritablement épatant en battant son record. C'est une des épreuves phares pour lui, avec le saut à la perche.
Le coach Perrin, football, une recrue de choix pour Saint-Etienne.
Les Verts enregistrent l'arrivée de Riyad Boudebouz, le milieu de terrain de Séville, qui s'était révélé à Sochaux, a signé un contrat de 3 ans pour cette première journée de Ligue 2. Et bien Lens, cet après-midi, renverse Le Mans et s'impose 2-1 dans la Sarthe. En match amical en Chine, le Paris Saint-Germain a perdu contre l'Inter Milan au tir au but.
Et pendant ce temps, le Real Madrid a été humilié la nuit dernière.
Le plus grand club du monde a pris une leçon face à son grand rival, l'Atlético de Madrid. Les joueurs de Zinedine Zidane ont perdu perdu 7-3 Oula. Lors de ce match amical. 7-3 effectivement à New York. Zidane furieux n'a pas salué ses joueurs à la fin du match, on le comprend. C'est la plus grande humiliation jamais subie par le Real depuis 50 ans.
Bonne ambiance. Formule 1 et les qualifications du Grand Prix d'Allemagne qui se déroule sur le circuit d'Hockenheim.
Lewis Hamilton a décroché la pole position, la 87e de sa carrière. Les Ferrari ont souffert, handicapés par des soucis mécaniques. Charles Leclerc a réalisé le 10e temps. Sébastien Vettel partira même en dernière position. Le pilote allemand, quadruple champion du monde, a été victime d'un problème de turbo. Il n'a pas pu prendre part aux qualifications.
C'était le journal des sports de Cyril de la Morinerie, très complet comme chaque fois. Merci Cyril. Vous restez avec nous dans un instant, un débat passionnant autour de la PMA. D'un côté, une députée de la majorité mariée avec une femme et mère de 4 enfants. De l'autre, un député du Modem qui dénonce une PMA sociale. A tout de suite.
Il est 18h15, le grand journal du soir, c'est avec vous Sébastien Guyot. Et ce soir, vous recevez 2 députés pour un grand débat sur la PMA.
Oui, c'est la grande réforme sociétale du quinquennat Macron. La PMA pour toutes les femmes, principale mesure du projet de loi bioéthique dévoilé cette semaine. Une commission spéciale de 70 députés a été mise en place pour préparer les débats qui auront lieu à l'Assemblée à la rentrée. Bonsoir Laurence Vossenbrock-Mialon.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous faites partie de cette commission et vous êtes députée LREM de l'Allier et homosexuel. Nous avons invité ce soir on vous a demandé de venir sur Europe 1 car votre histoire personnelle et politique symbolise parfaitement sur ce débat sur la PMA. Et vous allez pouvoir échanger avec Philippe Berta qui est en ligne avec nous depuis sa circonscription. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes député Modem et généticien, pas forcément favorable à la PMA, du moins telle qu'elle est présentée dans le projet de loi. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Mais d'abord, Laurence Vossenbrock-Mialon, un mot de votre histoire. Vous avez 49 ans, 4 enfants, dont 2 obtenus par PMA, mais vous n'êtes pas reconnue comme la maman d'une de vos filles. Qu'est-ce que cette loi aurait changé pour vous ?
Ah ben, mais justement, en fait, tout, puisque, enfin, déjà au départ, on n'aurait pas été obligé de se marier comme c'est le cas maintenant pour adopter nos enfants. Voilà, donc ça nous aurait juste permis finalement d'accéder à une technique très simple, la procréation médicale assistée, donc une insémination en l'occurrence, c'est ce qui a été le cas pour moi. Et puis ensuite, donc de pouvoir simplement déclarer la naissance de ma fille qui aurait donc bénéficié directement d'une double filiation alors que ce n'est pas le cas actuellement.
Ça aurait tout facilité. Donc ouais. Vous êtes allé en Belgique pour procéder à ces 2 PMA, c'est très courant, mais cela a un coût. Le projet de loi du gouvernement prévoit justement une prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. Cela va de soi, a dit Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Cela va de soi pour vous, Philippe Berta ?
Oui, tout à fait. On est dans une recherche d'égalité entre tous. Donc, pour moi, oui, également, ça va de soi. Je voudrais juste corriger le dire, parce que j'ai peur de m'être mal fait comprendre. Dans un texte de bioéthique, il y a 2 volets. Il y a un volet, et c'est pour chaque texte de bioéthique, il y a un volet qui est un accompagnement d'une évolution sociétale, c'est le volet effectivement procréation médicale assistée dont on parle là à l'instant, et puis il y a le volet scientifique qui est accompagnement des évolutions de la science dans le domaine de la recherche en santé, et en tant que scientifique, croyez-moi, ça va très vite. Mmh. Donc la question moi que je pose, je suis pour la PMA pour toutes, soyons bien clairs, la seule problématique que je pose c'est est-ce que ce n'est pas un slogan un peu facile dans un pays où malheureusement la PMA est comme toute technique de procréation médicale assistée est aujourd'hui en grande difficulté parce que justement nous sommes très en retard et sur le volet recherche et sur le volet diagnostic sur lequel j'entends me battre dans le texte qu'ils nous ont proposé.
Laurence
Alors Mialon. Oui, effectivement, moi je suis d'accord avec toi Philippe, on fait beaucoup de battages médiatiques finalement sur la PMA qui finalement n'a pas évolué en termes techniques, et tu as tout à fait raison de souligner qu'il y a d'autres points de recherche donc justement dans ce PJL, dans ce projet de loi pardon, et que voilà, il aurait été important aussi qu'on parle fertilité et qu'on aille un petit peu plus en avant sur ce volet.
Alors la PMA ça concerne environ 2000 couples par an, selon Agnès Buzyn. Demain, il y en aura plus, forcément. Première question, est-ce que les centres dédiés vont pouvoir faire face à cette demande ?
Alors, Bah, en l'occurrence, j'imagine, en tout cas, j'espère que oui. Et, avec Jean-Louis Touraine, avec qui on échange beaucoup sur le sujet, on pense qu'il sera important de mettre en place, notamment avec Madame Buzyn, une campagne de sensibilisation aux dons, justement, à l'appel aux dons, j'ai envie de dire, comme ça se fait d'ailleurs dans les pays étrangers. Donc, je pense qu'avec une campagne bien menée, on devrait pouvoir, en tout cas, dépasser le nombre de donneurs qu'on a actuellement en France, qui n'est pas très élevé, c'est vrai, entre 300 et 400. Enfin, voilà, donc c'est pas non plus énorme, mais justement, je pense qu'il va falloir y réfléchir et mettre en place ce genre de communication.
Alors, on manque de donneurs, Philippe Berta, et c'est la seconde question. À qui va-t-on donner la priorité, finalement ?
Alors, effectivement, en tant que donneur, les chiffres donnés sont effectivement les bons. Je rajouterais que côté féminin, je crois qu'on est même à 25, une trentaine de donneuses d'ovules. Donc, c'est pour vous dire quand même que le point crucial est là. Le nécessaire accompagnement explicatif doit se faire vis-à-vis de la population. Et je rajouterais aussi, et je pense que toutes les femmes qui sont passées par là peuvent en témoigner, aussi bien expliquer que ce n'est pas un geste anodin. Alors, je pense plus particulièrement à la fécondation in vitro, l'insémination, c'est probablement plus simple, mais ce sont des parcours de femmes qui sont des parcours très complexes, qui nécessitent un vrai accompagnement psychologique, et c'est pas quelque chose qu'on peut décider à la légère. Il faut vraiment que ça soit bien clarifié. Alors, vous avez raison, le souci derrière, c'est si nous devons faire face à une pénurie, et c'est le cas, et c'est donc il faut vraiment relancer cette campagne et bien réfléchir. J'aimerais pas que mes collègues gynéco-obstétriciens se retrouvent dans des situations de priorisation, parce que finalement, cette recherche d'équité, d'égalité entre couple hétérosexuel et couple homosexuel risque de nous échapper en fonction des décisions. Est-ce que je favorise une PMA pour des problématiques médicale de stérilité de couple, ou est-ce que je favorise une PMA pour des couples de femmes homosexuelles? Je ne veux pas qu'on ait un jour dans ce pays à répondre à cette question. Et donc le souci du don et le souci aussi de les évolutions technologiques, et là je pourrais en parler longuement, et doit être la vraie priorité du moment.
Il y a un risque, Laurence Vossenbrock-Mialon, qu'est-ce que vous répondez à Philippe Berta?
Alors en fait, moi je pense qu'il serait judicieux, mais après bon, c'est pas forcément moi qui vais décider de ce genre de choses, mais en tout cas on en discutera certainement de façon collégiale dans l'hémicycle, ou en tout cas si ça se fait par la voie réglementaire, bon ben voilà, donc ce sera réglé donc par la ministre, mais il faut, je pense, envisager l'urgence, c'est-à-dire penser à l'âge des femmes, parce qu'on sait très bien qu'on reçoit d'une meilleure façon une PMA quand on est plus jeune, évidemment. Donc voilà, donc la difficulté s'annonce pour les femmes qui vont dépasser 35 ans. Là, c'est vraiment l'âge qui commence, entre guillemets, à être critique. Et voilà, par contre, je pense qu'il deviendrait intolérable, à contrario, que les couples hétérosexuels soient privilégiés par rapport aux couples homosexuels. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille dans une égalité parfaite.
Alors, je crois que vos filles ont 15 et 19 ans, c'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'elles vous demandent de l'identité du donneur? Est-ce que c'est important pour elle?
Alors c'est un sujet dont on a parlé, parce que justement moi, au regard de ce qu'on a entendu depuis 2013 sur tout ce qu'on a entendu en fait depuis le mariage pour tous, je me suis inquiétée justement de savoir si elles, ça leur posait question. Et en fait, quand je les interroge, et d'ailleurs la plus jeune de mes filles était avec moi, ça ne leur a jamais posé, elles ne se sont jamais posé la question. Et la seule chose qui les embarrasse finalement dans cette situation d'être issue d'un don, c'est surtout le regard que peuvent avoir en fait les opposants, les discours qu'on peut entendre, notamment par exemple dans la manif pour tous.
Et pour vous, Philippe Berta, ce qui est prévu dans le projet de loi, le fait qu'on connaisse certaines données du donneur sans connaître son identité, sauf s'il le souhaite, ça va dans le bon sens?
Pour moi, ça va dans le bon sens. Il est normal, surtout aujourd'hui, avec le regard que le généticien est capable de poser sur un individu, comprendre de quoi il a hérité, comprendre ce qu'il va le transmettre, que si ces données sont des données importantes à prendre en compte pour l'avenir de l'enfant à naître, je pense, et pour l'avenir du futur adulte aussi, et de l'adulte, c'est important qu'elles soient transmises. La levée, par contre, de l'anonymat de façon systématique, moi, je reste quand même un petit peu méfiant, parce que ça reboucle avec ce qu'on vient de se dire. Mon souci, c'est que le nombre de donneurs potentiels n'aille pas vers une diminution, alors qu'il est déjà extrêmement faible. Dans un pays comme les autres pays occidentaux et probablement d'autres, dans un pays où la fertilité et les problèmes donc de stérilité de couple ne cessent de s'accroître. Hein. Je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, on est pratiquement à un couple sur sept. Je parle de couple hétérosexuel, avec une problématique de stérilité. Donc on a des besoins croissants. N'allons pas amputer de quoi que ce soit l'envie du don.
Alors, en fait, si je peux me permettre, Philippe, il y a énormément d'études qui ont été faites sur les pays, justement, qui autorisent la PMA à toutes les femmes, qui ont donc, notamment, par exemple, le Royaume-Uni, la Suède ou d'autres pays encore, qui montrent qu'effectivement, la première année où on a, en tout cas, donné l'accès aux origines, il y a eu effectivement une baisse du nombre de dons. Par contre, l'année qui a suivi, les dons, en fait, sont revenus à leur niveau initial et ont même parfois, en fait, augmenté et dépassé ce fameux niveau, puisqu'en fait on a finalement des donneurs qui ne donnaient pas avant, puisque avant c'était souvent des étudiants qui participaient à ce genre de dons, mais et par la suite ce sont des gens avec des profils bien différents, avec une plus grande maturité et qui avaient des étapes dans leur vie qui leur permettaient de procéder à ce don.
Merci à vous deux pour ce débat apaisé. En un mot, les opposants à la PMA pour toutes promettent un débat pas apaisant à la rentrée, ça vous inquiète ?
Non, a priori, je pense que le gros du mouvement qu'on a pu rencontrer avec le mariage pour tous n'est pas le même, a priori, que celui qu'on va rencontrer, puisque ça concerne de toute façon beaucoup moins de monde dans la population. Donc, je pense
merci.
Voilà, ce sera beaucoup plus simple.
Merci Laurence Vossenbrock-Mialon, députée LREM de l'Allier, et Philippe Berta, député Modem du Gard, d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, notre deuxième invité, Henri Loquet, président du comité des fêtes de Bayonne. Sortez vos chemises et pantalons blancs et vos foulards et ceintures rouges. On change d'ambiance, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Il est 18h28.
Et à 18h28, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Marion Jorte.
Emmanuel Macron, de retour de Tunisie, il a pris un bain de foule à bord la Mimosa. Les vacances seront studieuses, je reste en contact avec les membres du gouvernement. Déclaration il y a quelques minutes. Il n'y aura aucun Français sur le podium du Tour de France. C'est Egan Bernal, 22 ans, qui remporte cette édition 2019 après une étape réduite de moitié aujourd'hui entre Albertville et Val Thorens à cause des intempéries. Sauf accident, il sera le premier coureur colombien à remporter un Tour de France. Le relais mix français du 4x100 décroche lui le bronze aux Mondiaux de natation. Ça se passe en Corée du Sud. C'est la deuxième médaille pour les Français dans cette compétition. Il est de notre intérêt collectif de parvenir à une taxation du digital. Il n'y a aucune volonté de cibler spécifiquement les États-Unis. La réponse de Bruno Le Maire à Donald Trump, le président américain menace de rétorsion sur le vin français en réponse à la taxation des GAFA. Bruno Le Maire dit espérer un accord d'ici au G7 fin août. 22 départements placés en vigilance orange aux orages jusque demain 6h. La foudre et la grêle pourraient s'abattre des Ardennes à l'Alsace et de l'Ardèche à la Savoie. À Perpignan, la permanence d'un député La République En Marche prise pour cible ce samedi par des gilets jaunes. Une trentaine de personnes ont cassé les vitres et tenté de mettre le feu à son local. Le député va porter plainte. Un couple d'homosexuels violemment pris à partie par une vingtaine de personnes armées de barres de fer et de casques de moto. Ça s'est passé la nuit dernière à Villeurbanne. Le couple souffre de blessures légères. Une enquête est en cours.
Merci Marion Jorte. On vous retrouve à 19h pour le journal.
Europe 1.
La météo des plages à présent, c'est avec Laurent Cabrol. Après le passage des pluies, Laurent, qu'est-ce qui attend les vacanciers demain ?
Eh bien, commençons par l'Atlantique, si vous le voulez bien. Et du ben soleil oui. Avec... alors, on va parler de soleil ou d'éclaircies très larges. Hein, mais enfin, d'accord. Ce ne sera pas un ciel limpide quand même sur les côtes atlantiques dans leur ensemble. Température 21 à 23 degrés, c'est un peu frais quand même, hein, sous les parasols, je ne sais pas si vous en avez besoin. Et 21 à 22 degrés, température de la baignade sur quasiment l'ensemble des côtes. Je dis, c'est une moyenne. Hein. Manche et mer du Nord, les températures entre 20 et 22. Bon, pas terrible quand même. La mer, 18-20. Ça, c'est bien pour la Manche et la mer du Nord. C'est une belle température. Avec des vents forts, attention, entre le Cotentin et la ville de Dunkerque, autour de 40 à 50 km/h. Voilà, des côtes qui seront sous les éclaircies. Enfin, en Méditerranée, 29 à 31 degrés, ce sera pas trop mal, il fera beau presque, mais il y aura beaucoup de vent. La tramontane va se lever, 60-65 km/h. Ben, à l'abri du vent, ça ira, 24-25 degrés. Sur la Côte d'Azur, 28. Mais avec le vent, eh bien, ces températures seront beaucoup plus fraîches, notamment dans le golfe du Lion.
Dans le ressenti, comme vous dites. Merci, Laurent Cabrol.
18h32 sur Europe 1, c'est le grand journal du soir avec vous, Sébastien Guyot, et c'est l'heure de retrouver votre deuxième invité.
Alors, vous avez sorti votre tenue blanche et rouge, je vous emmène au Pays Basque, donc comme promis, c'est l'un des plus grands rassemblements festifs d'Europe, entre 800 000 et 1 million de personnes attendues jusqu'à demain soir aux fêtes de Bayonne. Bonsoir Henri Loquet.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le président du comité des fêtes de Bayonne. Alors aujourd'hui, vous êtes sous les trombes d'eau, hein. C'est pas une bonne nouvelle.
Mais oui, depuis ce matin, effectivement, la météo n'a pas été clémente avec nous. Elle nous a épargné jusque-là, mais à la fois, nous sommes ravis d'être rafraîchis parce qu'on a connu quelques jours de canicule. Mais d'un autre côté, ça nous complique un peu la tâche puisque certaines manifestations, évidemment de plein air, ont dû être annulées, en particulier la corrida cet après-midi et peut-être le défilé de chars ce soir, mais que nous répétons demain soir. Donc demain, normalement, sous un soleil ou en tout cas un espèce de soleil un peu plus clément, nous aurons une journée de clôture des fêtes qui devrait, elle, être normalement peu perturbée.
Alors vous attendez quand même entre 800 000 et 1 million de festaires. Comment on prononce d'ailleurs festaires?
Oui, festaires. Oui.
Voilà, les, ça veut dire fêtards en gascon, hein, car on le rappelle.
Oui, c'est ça, c'est fêtards en gascon.
Parce que Bayonne, c'est une ville mixte, hein, basque et gasconne.
C'est ça, c'est la confluence de la Gascogne et du Pays Basque, symbolisée d'ailleurs par nos deux cours d'eau, la rivière la Nive qui suit son cours d'eau en Pays Basque et l'Adour gascon. Voilà, et nous sommes, comme on dit à Bayonne, beaucoup charnières, c'est-à-dire charnières entre ces deux cultures.
Très bien. Donc ça n'a pas fait fuir le public?
Non, du tout. Je dirais que les habitués, ceux qui aiment les fêtes de Bayonne, qui se retrouvent dans les associations, les peñas, les bars, bien sûr, sont là, exprimant de manière collective cette envie de se retrouver, de partager collectivement des grands moments. Donc ceux-là, ils sont là. Il n'y a pas de problème.
Bon, alors les clés de la cité ont été remises symboliquement mercredi soir au Festair, justement, pour 5 jours, hein.
Oui, c'est ça. Elles symbolisent les 3 quartiers de la ville, Grand Bayonne, Petit Bayonne et Rive Droite, Saint-Esprit. Elles ont été jetées par les joueurs de l'Aviron Bayonnais qui, après avoir été champion de France de Pro D2, sont remontés en top 14. Vous savez que le rugby, la fête, tout ça à Bayonne, ça ne fait qu'un. Il était important qu'on les mette à l'honneur à l'occasion de l'ouverture de nos fêtes.
Allez, on se remet un petit peu dans l'ambiance pour l'occasion. La Peña Bayona, voilà, c'est à ce moment-là que tout le monde nous son foulard rouge autour du cou. Alors depuis, vous enchaînez tant bien que mal avec la pluie, les animations culturelles, sportives, culinaires. C'est quoi les nouveautés cette année?
Les nouveautés, alors cette année, on a, vous savez que les fêtes sont traditionnelles, évidemment, les gens attendent les rendez-vous habituels que sont les courses de vaches dans une place centrale de la ville, le défilé de chars le samedi et dimanche, le carré Calvi qui est une grande manifestation au pied de nos remparts, qui présente toutes les formes d'expression de la culture basque, la danse, le chant. Mais cette année, on a également mis à l'honneur les Jeux ruraux du Pays Basque, qui sont également notre culture, notre identité. C'était des défis qui se faisaient entre gens d'une même ferme, d'un même village.
Les forces basques.
C'est ça, c'est la force basque. Et on a fait ce qu'on a appelé Eskual Erkulak, c'est-à-dire l'Hercule basque, qui devra se frotter à 6 spécialités, le lever de la paille, couper des troncs d'arbres, voilà, qui fera que demain à Bayonne, l'homme le plus fort du Pays Basque, l'Hercule du Pays Basque, sera déclaré le champion des fêtes de Bayonne.
Alors on aura l'Hercule du Pays Basque demain, je crois qu'il faut, il faut faire 60 mètres par exemple avec 70 kilos sur le dos, pas facile oui. En effet. Cette année comme l'an passé, vous faites payer l'entrée, hein, 8 euros du vendredi au dimanche, c'est une façon de financer le renforcement des mesures de sécurité?
Oui, effectivement depuis 2016, évidemment avec les événements qu'on a connus en France et en particulier à Nice, nous avons été, les grands rassemblements français, obligés de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, notamment anti-intrusion, qui évidemment ont été pour les villes organisatrices un surcoût important. Donc, comme c'est allé crescendo, hein, avec et qu'on n'a pas pu revenir en arrière, il a été nécessaire d'impacter pour les gens qui nous visitaient, pas pour les Bayonnais puisqu'ils sont exemptés, mais les gens qui nous visitaient, d'impacter l'accès aux fêtes avec un passe pour 3 jours à partir du vendredi depuis hier, donc, qui est de 8 euros mais qui a été relativement bien pris par tout le monde. Je crois que les gens ont eu conscience que nous proposions des fêtes au maximum sécures, en tout cas dans lesquelles les gens se sentent bien protégés, même si on le sait, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas ça a contribué à faire des fêtes à un moment peut-être un peu moins de tension, un peu moins électrique. Et je crois que depuis 2016, nous ne pouvons que nous en satisfaire. Et je crois que les gens, ces 8 euros, ils l'ont absorbé sans aucun problème.
Donc pas de problème de sécurité à signaler depuis le début de ces fêtes de Bayonne. D'agression sexuelle, parce qu'il y a souvent des plaintes pour agression sexuelle, 5 ou 6 chaque année. Rien de ce côté-là cette année.
Non, je crois que les fêtes se sont apaisées. Je crois que les gens, et surtout les festaires, se sont responsabilisés eux-mêmes. Ils ont senti qu'à un moment donné, les fêtes pouvaient basculer, comme beaucoup de rassemblements en France qui étaient peut-être pris par des gens mal intentionnés. Je crois qu'à l'heure actuelle, les Bayonnais eux-mêmes, les Basques, ceux qui fréquentent nos fêtes, et au-delà, hein, puisque les gens viennent de beaucoup plus loin, ont senti la menace et se sont dit, ben, à nous d'être les régulateurs de cette fête, et je crois qu'on ne peut que s'en louer.
Alors on va finir sur l'aspect festif de ces fêtes de Bayonne. Un mot du concours incontournable, celui de l'Irinzina, ce cri des bergers basques.
Aïe, aïe, aïe.
Vous venez d'entendre Chantal Lacouara, elle est imbattable.
Ben, je crois que c'est une autre championne hein, de ce cri qui vient de l'histoire. C'était le cri qu'entre les vallées, les bergers se faisaient entre eux. Et c'est quelque chose qui est un élément aussi fort de notre identité. Et nous avons cette année demandé à Chantal de réaliser un défi entre évidemment des chanteurs, des pousseurs du cri d'Irinzina. Et ils auront la boina, c'est-à-dire le béret, qui sacrifiera le vainqueur du défi des fêtes de Bayonne pour la première fois cette année.
Merci, merci Henri Loquet d'avoir été avec nous depuis Bayonne et on vous souhaite de bonnes fêtes jusqu'à demain soir.
Merci, c'est gentil. À bientôt.
Europe 1.
Catherine, vous voulez vous lancer dans le défi de l'Irinzina?
Du you-you? Non, il est arrêté ça s'est arrêté de pleuvoir, donc on ne va pas tenter le diable,
bon,
je pense.
On enchaîne alors dans un instant les médias. Le retour d'une émission culte ce soir à la télévision. Striptease, nouvelle version polémique. Restez avec nous, ça promet.
Europe 1, il est 18h39, la suite du Grand Journal du soir, c'est l'heure de la chronique média.
C'est l'événement média du jour, le retour d'une émission mythique à la télévision. Striptease, l'émission culte franco-belge diffusée entre 1985 et 2012 sur la RTBF puis sur France 3. Oui, mais ce Striptease 2019 fait déjà polémique. Les créateurs historiques crient au scandale. Bonsoir Stéphane Salé de Chou.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des flux et des documentaires sur RMC Story, chaîne qui va donc diffuser ce soir à 20h50, c'est ça?
Exactement.
Canal 23 de la TNT.
Parfait.
Les trois premiers épisodes inédits de ce Striptease version 2019. Le générique s'inspire fortement de l'original. Première polémique, les créateurs de Striptease ont publié une lettre ouverte, vous l'avez forcément lue.
Tout à fait.
Ils parlent d'un vulgaire plagiat de l'original, bas de gamme, d'une désespérante contrefaçon. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur réponds que la télévision est là pour provoquer des émotions. Donc là, je constate que ça provoque des émotions avant même d'avoir vu les premières images. Après, je pense que c'est une réaction qui peut tout à fait s'entendre et elle est humaine quand on a eu un bébé aussi beau que Striptease. Et c'était le leur. C'est toujours compliqué de le voir produit par des confrères belges. Ce ne sont plus les historiques qu'ils produisent. Après, franchement, je trouve que c'est un peu tempête dans un verre d'eau. C'est une sublime marque qui continue d'être sublime.
Alors, nous avons joint l'un des créateurs historiques de l'émission, le belge Marco Lamensch. Il n'en veut pas forcément à RMC Story, à vous, mais à la société de production belge Matchpoint, à qui les droits ont été revendus. On va l'écouter.
Ce qui nous a fortement déplu, c'est d'apprendre que dans notre dos, la RTBF, le service public, a vendu à une boîte privée la possibilité de faire des choses qui s'appelleraient Striptease. Alors ils vont peut-être faire du très très bon travail, je n'en sais strictement rien, qu'ils changent de nom, qu'ils appellent ça Moulin Rouge ou Pigalle ou je ne sais pas, comme ils voudront, mais ça ne sera pas Striptease.
Vous allez changer de nom ?
Pas du tout. C'est bien Striptease que vous verrez ce soir à 20h50 sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Et limite, j'ai envie de vous dire, c'est un peu leur histoire. Moi, les historiques, savoir pourquoi ils sont, c'est pas eux qui ont produit, peut-être qu'ils n'ont pas été consultés, ça ne me concerne pas et je ne suis pas certain que ça concerne vos auditeurs et les téléspectateurs.
Alors, je le disais, Striptease, c'est une émission mythique, 850 épisodes qui ont marqué toute une génération, avec notamment le cultissime La Soucoupe et Le Perroquet. Vous, votre parti pris à vous, c'est quoi sur cette nouvelle émission ?
Notre parti pris, il est très simple, c'est de coller à la ligne éditoriale d'RMC Story. RMC Story, c'est la chaîne de la diversité. Donc c'est la chaîne qui va parler de l'ensemble de la société française, aussi bien les gilets jaunes, période séquence qu'on a connue pendant 6 mois en France, mais également des profils plus atypiques, plus hors normes, qui est la marque de fabrique de Striptease. Le truc le plus important pour moi, quand on parle de Striptease sur RMC Story, à une époque, Striptease, cette marque très 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 forte, on pouvait se moquer ou rire des personnalités qu'on découvrait à l'écran. Moi, quand je me suis attaché à repenser Striptease pour RMC Story, c'est de coller à la France qui a changé en 10 ans. C'est plus la même France de l'époque de diffusion de France 3. Et surtout, ce qui est très important, on rit avec nos personnalités, parce qu'elles sont hors normes, parce qu'elles sont atypiques, parce qu'elles sont toutes passionnées, mais on ne rit pas d'eux.
Alors on va y revenir dans un instant, on va les écouter, on va diffuser un premier extrait en avant-première ce soir. Mais donc il n'y a pas de voix off, hein, comme dans l'original, une manière décalée de traiter les problèmes de société, c'est ce que vous dites. Votre mot précis, vos mots précis, c'est « il n'y a pas de mode de captation plus pur, on pose la caméra et on laisse tourner ». Écoutez ce qu'en pense Marco Lamène, justement un des créateurs historiques de Striptease.
Ça, c'est les caméras de surveillance quand on pose une caméra, et c'est ce qu'il y a dans le parking d'Europe 1 ou ailleurs. Non, non, en Striptease, il y a un travail de réalisation. Il y a un réalisateur qui ne reste pas les bras croisés, qui suggère des choses, etc. On ne fait pas faire aux gens des choses qu'ils ne font pas, mais on organise quand même un tournage. Ce qu'on a toujours dit, Striptease, c'est du documentaire fait avec la grammaire de la fiction. Ça dit bien ce que ça veut dire.
Votre réaction ?
J'entends complètement ce qu'il dit. Moi, pour moi, Striptease, c'est la définition du documentaire brut par excellence. Quand je dis qu'on pose la caméra, évidemment que ce n'est pas une caméra de surveillance. L'intérêt de poser la caméra, c'est pour enlever tout doute. Ce n'est surtout pas une télé-réalité. On crée un terrain de jeu avec des personnalités qu'on a pré-castées, castées, enquêtées. Vos auditeurs doivent bien comprendre ce qu'ils vont voir ce soir à l'antenne. Des formats, des portraits de 12 à 18 minutes pour les personnalités qu'on traite le davantage dans la longueur, c'est entre une semaine et trois semaines de tournage pour arriver à livrer, à raconter un portrait en 12 minutes. En télévision, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce temps-là n'existe plus.
Donc vous dites qu'il n'y a pas moins de moyens, il n'y a pas de preneur de son, il n'y a pas un réalisateur qui ne passe pas du temps sur le montage, par exemple.
C'est exactement le même mode de production que mes petits camarades belges d'origine. Je dis juste qu'aujourd'hui, la télévision a changé, la période a changé. On est dans une économie qui est plus contrainte qu'à l'époque du grand Striptease. J'imagine nos amis, nos confrères belges ont en tête, les créateurs ont en tête. Mais le mode de captation, le mode d'enquête, qui est super important, tout part du casting dans Striptease. Toutes ces personnalités hors normes, elles sont... C'est pour ça que ça me frustre d'entendre que les créateurs historiques, avant même d'avoir une image, abîment ce qu'ils ont créé. À la limite qu'on en parle la semaine prochaine quand ils auront vu la première soirée. Moi qui suis un enfant du Striptease, qui ai vu une bonne centaine d'épisodes et qui grandit, enfin je suis de la génération Striptease époque France 3, honnêtement, on est exactement dans la même veine avec évidemment une télévision qui a changé et une société qui a changé. Mais dans la pureté de production, on est exactement dans l'ADN même de Striptease.
Alors ce soir justement, dans les premiers épisodes que les téléspectateurs vont découvrir, il y a trois personnages hauts en couleur, un vendeur de falafel dans le Marais à Paris, un taxidermiste à la frontière belge et un dératiseur.
Ta femme, elle est partie de la maison parce qu'elle avait des souris. Elle est revenue maintenant, t'es content ? Elle remercie-moi quand même, hein ? C'est presque un divorce, cette histoire, hein ? Ah, tu vois, hein, je réconcilie, hein, je suis pas avocat encore, hein. Je t'ai pas demandé une note, hein. Déjà, on a tout dératisé. L'essentiel, c'est que t'es content, hein.
L'essentiel, c'est que t'es content. Voilà pour la gouaille de ce dératiseur parisien. Au-delà de la truculence des personnages, une fois encore, je reviens au créateur historique, ils disent qu'il ne se passe pas grand-chose, ça ne suffit pas, en fait, d'avoir un personnage haut en couleur. Vous leur répondez quoi ?
Moi, je n'ai pas du tout cette perception-là. Et encore une fois, ils n'ont pas vu le programme. Donc, je pense que là, ils font un mauvais procès, et c'est un procès, c'est plus la passion que la raison qui parle. En vrai de vrai, Striptease, le plus important, c'est 12... 15 ou 18 minutes de portrait brut, sans commentaire, ce qui n'existe pas aujourd'hui à la télévision. C'est un format ovniesque. Et donc, cette écriture-là, cette écriture ovniesque, qui est la marque de fabrique de Striptease, elle est encore vraie parfaitement aujourd'hui dans les épisodes que vous pourrez voir ce soir. Donc, ce soir, ce sont les professionnels. Vous avez trois tranches de vie, trois portraits de personnalités atypiques hors normes, mais qui sont labellisés autour des professionnels.
C'est vrai que ces trois personnages en couleur, vous pourrez le découvrir ce soir. Alors, à propos du générique, justement, les créateurs se réservent le droit de donner une suite judiciaire à l'affaire. Écoutez ce que dit Marco Lamensch.
Le graphisme n'appartient en aucun cas à la RTBF. RMC ne doit pas s'étonner s'il reçoit une mise en demeure pour plagiat du générique.
Ça vous inquiète, cette menace judiciaire, ou au contraire, vous vous dites ça me fait un peu de pub supplémentaire ?
Ah, je me dis, ni l'un ni l'autre, je pense que ça n'intéresse personne à part moi, RMC Story et mes amis belges, donc on en parlera s'il faut. Je crois même savoir que dernièrement, tout ça est en train de se calmer, que les producteurs historiques et les producteurs actuels se sont parlé, que voilà, c'est comme un peu Astérix et les Romains, tout ça va se finir autour d'un banquet, on passera un bon moment, et le plus important, c'est que les auditeurs et les téléspectateurs prennent rendez-vous avec le grand retour de Striptease à la télévision française en gratuit.
Merci Stéphane Salé-Dechoux d'être venu défendre Merci votre beaucoup. Nouveau bébé Striptease version 2019 à découvrir ce soir sur le canal 23 de la TNT, RMC Story à 20h50.
Merci.
Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 18h48, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 19h.
Et si Striptease met à l'honneur ce soir l'as des falafels, nous ce sera la galette saucisse. Nous poursuivons notre tour de France des spécialités régionales comme chaque week-end avec notre as à nous, Marion Sauveur, direction, vous l'aurez compris, la Bretagne.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Il est 18h52, la suite du Grand Journal, Sébastien Guyot.
Et on part sur la route de nos régions de France qu'on vous fait découvrir chaque week-end avec Marion Sauveur sur le plan culinaire. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Où est-ce que vous nous emmenez ce soir?
Alors tout près des fourneaux.
Des fourneaux bretons.
Oui, on est devant un bilig que l'on appelle aussi une galetière ou une crêpière. Vous savez, c'est cette plaque pour faire des galettes et des crêpes.
Je vois bien.
Nous sommes donc en Bretagne, vous l'avez dit. Je vous emmène en Ille-et-Vilaine, patrie de la galette saucisse. Mmh. Alors la galette saucisse, c'est en quelque sorte le hot dog breton. Une galette de sarrasin, froide ou tiède, roulée autour d'une saucisse bien grillée et goûtue surtout. C'est l'encart qu'on mange sur les marchés en Bretagne ou avant un match au Roison Park, le stade de Rennes.
Ah oui, des fans de foot, forcément.
Et oui, on a commencé à manger des galettes au Moyen-Âge, quand les croisés ont ramené le sarrasin en Bretagne. C'est Anne de Bretagne qui a démocratisé celle qu'on a appelée la plante des pauvres, parce qu'elle était peu taxée, contrairement au blé. Et seuls les seigneurs mangeaient ces galettes plusieurs fois par jour, ce qui était signe de richesse. D'accord. À l'époque. Le peuple lui en mangeait une fois par semaine, comme me l'a raconté Laura Mario de l'Atelier de la Crêpe, une école internationale de crêpiers professionnels et amateurs, basée à Saint-Malo.
À l'époque, on la mangeait surtout le vendredi, soit nature, soit avec du beurre, soit avec des pommes de terre. Elles étaient cuites sur des tuiles au feu de cheminée. Et c'est seulement à partir du 15e siècle qu'on a commencé à manger de la galette avec des abats à l'intérieur. Quand on tuait les cochons, on vendait la viande et on gardait les abats pour les manger en famille. Et puis après, petit à petit, les abats sont remplacés par la saucisse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à manger la galette saucisse.
Et surtout, bien sûr, en Haute-Bretagne, puisque le premier à en vendre, c'est Pogan, un galettier qui avait une petite échoppe à Rennes. On est au 19e siècle. La galette saucisse s'est véritablement popularisée au 20e siècle. Les Rennais allaient au lieu dit la Robiquette pour en manger, un lieu tellement populaire que la galette saucisse a failli s'appeler Robiquette, justement.
C'est dingue. Alors, comment fait-on, les Bretons le savent, mais pour les autres, pour réaliser une bonne galette saucisse?
Alors déjà, il faut réaliser une bonne galette. Alors, on dit qu'il y a autant de recettes de galettes que de clochers en Bretagne. C'est ça la difficulté. Alors je me suis formée à l'atelier de la crêpe à Saint-Malo et la rennaise Laura Mario m'a donné ses astuces pour réussir cette galette.
C'est déjà un bon sarrasin avec un bon goût de sarrasin, des bons produits. Dans une galette, on utilise seulement de l'eau, du gros sel et de la farine de sarrasin. On mélange le tout. On la laisse reposer. Quand on laisse reposer une pâte, on a vraiment plus le goût du sarrasin. C'est le côté un petit peu croustillant sur le bord et moelleux au milieu. On a différentes habitudes. Hein. Dans le Finistère, c'est plus fin. En Haute-Bretagne, Ille-et-Vilaine, ça va être plus épais. Nous, Bretons, on dirait que c'est indispensable d'avoir un bilic, mais la majorité des Français utilisent leur poêle pour faire une galette ou une crêpe. C'est vrai que le résultat n'est pas optimal dans une poêle, mais on peut quand même réussir à faire une bonne galette en ayant des bons produits à la base de la recette, ça c'est sûr.
Et donc pour la galette saucisse, il faut faire cuire la galette des deux côtés, la laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, vous faites griller votre saucisse de porc avant de l'enrouler dans la galette froide. Traditionnellement, on n'ajoute aucune sauce, même si aujourd'hui on peut vous proposer des oignons grillés ou un peu de moutarde. Et on la roule, il n'y a plus qu'à la manger, mais surtout avec les doigts, c'est important.
Forcément, donc vous avez été bien formé, vous savez la faire?
Ouh là là, attendez, il faut encore quelques heures. Je crois.
Bon, comme chaque week-end, nous invitons sur Europe 1 un chef qui revisite la recette traditionnelle du plat que vous nous présentez. Bonsoir Guillaume Pape.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef de Lambrin à Brest. Et donc vous mettez en valeur les produits du terroir breton. Et puis les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent peut-être parce que vous étiez quand même le finaliste de la dernière édition de l'émission de M6 Top Chef. Alors la galette saucisse, c'est un produit donc, que vous connaissez bien puisque vous avez cuisiné à Rennes. Alors comment vous le revisitez, vous? Comment vous le modernisez, ce plat?
C'est vrai qu'une fois arrivé à Rennes, je ne me voyais pas ne pas travailler la galette saucisse, étant l'emblème un peu de la ville de Rennes. Du coup, j'ai décidé de travailler sur le côté crabe. Donc, ce que disait tout à l'heure la personne, c'est que sur le côté de la galette devient sèche et croustillante. Donc moi, pour amener dans les amuse-bouches la galette saucisse, ben, j'ai utilisé la galette et que j'ai fait sécher au four. Donc j'ai une galette classique qu'on fait sécher au four en petit rond, voilà, ou en forme qu'on veut. Et au milieu de cette galette, je suis venu faire ma saucisse, donc ma propre saucisse avec ma chair à saucisse. Mmh. Et comme on le disait avant, on pouvait l'accompagner de moutarde ou d'oignons. Ben, toutes ces choses-là, moi, je les ai mis directement dans la chair à saucisse. Mmh. Avec des oignons confits et du réfort pour remplacer la moutarde. Donc le réfort, c'est une racine qui a un peu ce goût moutardé.
Anisé un peu.
Ouais, un peu anisé. Donc je roulais moi-même mes saucisses, cuit au four vapeur délicatement, et je venais insérer une tranche de saucisse faite maison entre deux morceaux de galette qui étaient séchées, donc croustillantes. Donc on pouvait toujours la manger avec les doigts. Elle était croustillante à l'extérieur par la galette et moelleuse à l'intérieur par la chair à saucisse.
Alors si on la mange avec les doigts, tout va bien.
C'est ça, c'est exactement. Ça. Et vous aviez même une technique pour cuire cette saucisse. Vous la cuisez au babeurre, hein, c'est ça?
Non, au vapeur, au four vapeur.
Ah, au four vapeur, pardon, ouais. Pardon. Donc, en fait, votre tranche de saucisse est entre deux croustillants de galette, et comme ça, on peut la manger tout simplement avec les doigts. Vous utilisez une autre technique pour la rendre croustillante, hein, cette galette aussi.
Oui, c'est vrai que la galette, on peut la manger un peu tout le temps, et je l'ai utilisée sur Top Chef. C'est en fait de prendre une galette qu'on fait soi-même ou qu'on peut acheter en supermarché. Nous, en Bretagne, on peut en trouver. Et de couper des bandes ou de couper des morceaux comme on veut, et de les frire. Et le fait de frire la galette, ça va sécher instantanément, c'est croustillant, et à l'apéritif, avec des condiments, avec des petites sauces, ça se mange très bien. Quoi.
Merci Guillaume Pape, je rappelle qu'on peut venir déguster votre cuisine à Lembrun, à Brest.
Et pour tous ceux qui aiment la galette saucisse, je vous signale l'ouvrage Galette saucisse, je t'aime, de Benjamin Kels, et le site de sauvegarde de la galette saucisse bretonne, sgsb.fr. Puis un petit cadeau, l'hymne de la galette saucisse.
Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos. Dans toute l'île de Guilaine, avec du lait ribot. Et si tu m'abandonnes.
Merci pour ce cadeau, Marion. Vous êtes vraiment trop aimable. On vous retrouve demain quand même.
On ira en Provence aller goûter l'aïoli.
Et on l'a en tête. Merci. Axel May, bonsoir.
Bonsoir Sébastien, rebonsoir.
Vous êtes un peu plus loin hein, que la Bretagne. Vous vous trouvez dans les Alpes pour la dernière étape, l'avant-dernière étape de ce Tour de France. Et donc ça y est, on a le podium pour demain et on aura un Colombien en jaune sur les Champs-Élysées.
Oui, plus loin que la Bretagne et surtout beaucoup plus haut. On est à 2500 mètres de mémoire au niveau de Val Thorens, la plus haute station d'Europe, là du studio Europe 1. On voit des petites fleurs, on voit un peu de neige au loin parce qu'il a fait mauvais hier et avant-hier. Et puis on va évidemment parler de la victoire d'Egan Bernal, premier Colombien à 22 ans seulement à remporter le Tour de France. La victoire d'étape est revenue à un grand nom du cyclisme, Vincenzo Nibali. Et Romain Bardet sauve l'honneur avec un maillot à poids qu'il rapportera demain sur les Champs-Élysées. Thomas Voeckler, notre consultant européen, sera là. Et puis on passera des coups de fil à des coureurs qui ont fini ou quasiment fini ce Tour de France.
Et on développera tout ça dans le Club Tour juste après le journal de 19h. A tout de suite.